Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Florent Guignard.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique. L'économie, les économies au cœur de l'actualité politique. L'épreuve de vérité aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour Manuel Valls. Le pacte de responsabilité, les 50 milliards d'économies en vote au Parlement. Et puis l'avenir d'un des derniers géants de l'industrie française, Alstom. Voilà le sommaire de Mardi politique avec notre invité cette semaine, Édouard Martin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancien syndicaliste de Florange qui s'est battu contre la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal, un autre symbole de la désindustrialisation. Voici ce que vous disiez d'ailleurs à François Hollande en septembre 2012.
Monsieur le Président, est-ce que vous savez que vous mettez dans le désarroi, dans la misère sociale, toute une région? Vous attendez quoi? Qu'il y ait un malheur ici? Eh ben nous allons être votre malheur.
C'était il y a 2 ans, aujourd'hui vous êtes tête de liste du Parti Socialiste pour les élections européennes dans la région Est. Faut-il y voir une contradiction? Êtes-vous l'homme qui permettra au Parti Socialiste de renouer avec les ouvriers? Vous serez interrogé pendant 40 minutes par Nathalie Rollin de Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Et Bernard Pellegrin de l'agence France Presse, bonsoir.
Bonsoir.
Alstom, un fleuron français, en passe d'être dépecé, 2 offres concurrentes, l'américain General Electric et l'allemand Siemens pour acheter la branche énergie d'Alstom. Et au milieu, l'État français, François Hollande, qui aimerait bien avoir son mot à dire.
L'État a forcément à dire son mot. Et chacun, d'ailleurs, le comprend. Tous ceux qui ont une offre à présenter vont vers l'État pour qu'il puisse faire en sorte que les offres soient améliorées dans le sens de la localisation des activités en France et de l'emploi en France. Et par rapport à ce dossier, je n'ai que ce seul critère. Et avec aussi une obligation, parce que je suis le chef de l'État, qu'est-ce qui assure également l'indépendance énergétique de la France.
François Hollande hier à Paris devant les préfets mobilisés pour l'emploi au micro de Valérie Gasse. Alors Édouard Martin, que peut faire l'État dans cette histoire? A-t-il les moyens d'intervenir aujourd'hui?
Les moyens financiers, certainement pas, puisqu'il faut parler de pacte de responsabilité, on cherche des économies. Par contre, politiquement, effectivement, il a son mot à dire, je pense. Mais concernant Alstom, moi, je pense que il est urgent de ne pas se précipiter. Je pense pas qu'il y ait le feu au lac. Et surtout, lorsqu'on voit la possibilité que le groupe Alstom, l'un des fleurons de l'industrie, vous l'avez dit, soit dépecé, moi, quelque part, ça m'interpelle. Et je pense que là, il y a peut-être moyen de regarder de manière intelligente, d'abord, d'interroger les syndicats d'Alstom. Parce que qui mieux qu'eux pour savoir exactement quel est aujourd'hui le meilleur scénario possible.
Ça, c'est l'ancien syndicaliste qui parle.
Mais évidemment, mais c'est pas simplement ça. Mais ça me paraît normal, moi, quand j'étais syndicaliste et que les dirigeants de ma boîte et les politiques prenaient des décisions sans même nous consulter, ça me mettait en rage. Donc là, pour l'instant, effectivement, j'entends pas. En tout cas, on n'a pas été écouter les organisations syndicales pour voir un peu quelle est leur vision de ce projet-là. Moi, je dis simplement, attention, il n'y a pas le feu au lac. Prenons le temps de la réflexion et regardons quel est le meilleur scénario possible dans l'intérêt de tout le monde et surtout dans l'intérêt d'Alstom et l'intérêt des salariés d'Alstom.
Alors, il y a 2 offres sur la table. Édouard Martin, l'américain General Electric, l'allemand Siemens.
Dans les 2 cas de figure, on va démanteler, on va dépecer, on va vendre par appartement Alstom. Je crains qu'effectivement, ce soit encore les uns et les autres vont uniquement s'attacher à investir sur les branches qui leur conviennent, qui sont les plus rentables, et le reste risque de mourir de sa belle mort. Et c'est là-dessus que je suis inquiet. Alstom n'a du sens que si elle reste, quelle est cette entreprise-là?
Alors, une question, Édouard Martin, une question de Bernard Pellegrin de l'agence France Presse.
Question toute bête, est-ce que la nationalisation d'Alstom, à vos yeux, ça a un sens total, partiel? Est-ce que cette idée de nationalisation des pépites qui vont mal, des pépites françaises qui vont mal, ça a un sens?
Moi, je trouve que l'État joue tout son rôle lorsqu'il faut effectivement défendre un fleuron, l'industrie, parce que je rappelle quand même, on en parlera peut-être tout à l'heure, le gros problème de la France, le gros problème de l'Europe aujourd'hui, c'est la désindustrialisation et effectivement l'incapacité ou l'impossibilité des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, à intervenir justement.
Alors est-ce qu'il faut nationaliser ?
Mais écoutez, si demain ça a du sens et effectivement ça peut sauver
le constructeur du TGV,
nationaliser de manière transitoire. Et je rappelle que dans l'idée de jouer le tampon, si de manière ponctuelle l'État peut aider à ce qu'Alstom ne soit pas dépecé, j'ai envie de dire pourquoi pas. Vous savez, c'est pas un gros mot, hein, le mot nationalisation. Et encore une fois, si ça peut aider à maintenir cette activité et ce fleuron de l'industrie, moi je ne suis pas opposé.
Nathalie Rollin de Libération.
Mais Monsieur Martin, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre vouloir ou même nationaliser de manière temporaire et effectivement prôner l'austérité au niveau national et donc, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, l'État aujourd'hui n'a pas d'argent. Donc comment vous conciliez ces deux...
Non mais, vous voyez, je pense que si vous me laissez simplement le temps, il faut à un moment donné faire un peu de pédagogie et parce que bien souvent lorsque les Français entendent le mot nationalisation, c'est « Oh, on va encore nous augmenter les impôts pour pouvoir payer le sauvetage d'Alstom ou à l'époque le sauvetage de Florange. » Aujourd'hui, l'État a des capitaux dormants dans beaucoup de sociétés et prendre quelques pourcents ici et là pour essayer de manière provisoire maintenir l'outil, maintenir l'intérêt industriel sur le territoire français, moi ça ne me choque pas. Il ne s'agit pas d'aller chercher de l'argent, d'aller emprunter ou d'aller augmenter les impôts. Aujourd'hui, même si l'État ne peut pas tout faire non plus, mais sur la vraie question, c'est est-ce que Alstom a du sens pour la France, dans l'intérêt justement de l'énergie, du transport en France, oui ou non. Si on dit que ça a peu d'intérêt, on laisse filer, évidemment. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à un moment donné, l'État doit jouer son rôle, pas s'occuper de tout, mais lorsque une entreprise comme Alstom est en danger, l'État doit intervenir, oui.
De gauche ou de droite, il doit faire preuve de patriotisme économique, l'État.
De bon sens.
C'est
bon
pas la
sens.
Même chose que le patriotisme économique.
Ben, oui, le patriotisme économique. Après, tout dépend ce qu'on y met derrière le patriotisme économique. Des fois, moi, je me sens aussi patriote. Voyez-vous, pas comme. Mais attention aussi à ce qu'on y met derrière le mot patriote, parce que Alstom a aussi des entreprises à l'étranger. Ça voudrait dire quoi? Que le patriotisme économique et industriel ne ferait que on reste entre nous et que tout se fasse en France et rien qu'en France et rien ailleurs. Donc, oui, l'intérêt de l'entreprise Alstom. Oui, je parle de bon sens industriel et ça ne me choque pas qu'Alstom ait des activités à l'étranger, évidemment, bien au contraire.
Il y a un instant, Édouard Martin, vous avez dit l'État ne peut pas tout. C'est une formule qu'on avait entendue dans la bouche.
C'est quand même extraordinaire que le moindre mot que je prononce soit. Jospin, elle est derrière.
Laissez-moi aller jusqu'au bout de la question. Voilà. Lionel Jospin, en 1999, face aux salariés de Michelin en difficulté, leur dit l'État ne peut pas tout. Un peu plus tôt, c'était François Mitterrand qui disait sur le chômage, on a tout essayé. On a plutôt le sentiment qu'avec François Hollande, il a un peu appris de ses prédécesseurs socialistes et qu'au contraire, avec François Hollande, l'État peut tout. C'est le volontarisme, le fameux volontarisme économique mis en avant par le chef de l'État. Est-ce que c'est un discours qui est encore crédible au moment de la mondialisation ?
Alors, vous avez vu quand même, vous aurez remarqué que la crise économique que nous traversons en Europe, mais aussi la crise, entre guillemets, le peu de confiance qu'ont les citoyens, pas uniquement français, européens, vis-à-vis du politique. Donc si, parce que l'économie est mondialisée, il faille laisser les libéraux de tous bords imposer la loi du marché, alors là, effectivement, il faut... Alors la vraie question, c'est à quoi sert l'État ? Je vais même vous poser la question, à quoi servent les élections ? Il n'y a qu'à laisser faire les grandes multinationales, le monde de la finance, et c'est eux qui vont gérer le monde. Ils nous ont dit combien de fois qu'il fallait laisser faire l'économie, il fallait tout ça s'autorégule, etc. On a vu ce qui s'est passé avec le sauvetage des banques. Ils étaient bien contents qu'il y ait un État-providence qui vienne les sauver.
Édouard Martin, on a vu aussi ce qui s'est passé au moment de Florange,
oui.
Le volontarisme
oui.
de François Hollande, qui s'est heurté finalement
oui.
à la réalité économique.
Bien sûr.
Donc ça crée de la déception
mais
aussi.
Mais attendez, quand même, parce que je pense que maintenant il faut tordre le cou à une idée reçue. Parce que Florange, je me rends compte maintenant, puisque je fais la tournée de la grande région Est, 5 régions, 18 départements, beaucoup de Français pensent qu'il n'y a plus rien à Florange, que tout a été rasé, qu'il n'y a plus de boulot. Il y a les hauts fourneaux qui ont fermé. Ça reste effectivement, pour moi, quelque chose de très poignant. C'est un véritable échec, parce qu'on n'a pas réussi à sauver les hauts fourneaux. Mais il reste encore 2200 emplois. Et simplement, pour vous montrer ce volontarisme, on va prendre simplement deux dates clés. Février 2012, Éric Besson, ministre de l'Industrie de l'époque, qui nous reçoit en Lorraine. l'intersyndicale, où on va le voir, où on lui dit, attention, Mittal vous fait croire que la fermeture est provisoire, la fermeture se transformera de manière définitive. La seule réponse que Éric Besson nous a donnée, je n'ai aucune raison de mettre en doute la parole de M. Mittal. 17 millions d'euros avait promis M. Mittal à Nicolas Sarkozy qu'il investirait à Florange. Nous, ça nous a fait amèrement rire. Aujourd'hui, on en est à 240 millions d'euros d'investis, plus la création d'un centre public de recherche qui va nous aider à développer les débouchés de l'acier.
Et ça, c'est grâce à François Hollande.
Mais c'est, en tout cas, mais attendez, les faits sont là. Les faits sont là.
François Hollande ou Arnaud Montebourg?
Mais écoutez, les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire. Arnaud Montebourg, c'est le ministre de François Hollande. Évidemment qu'Arnaud Montebourg a joué un rôle important dans cette pugnacité à faire en sorte que Mittal respecte un minimum d'engagement et qu'il se comporte comme une entreprise, entre guillemets, un minimum responsable. D'ailleurs, l'accord qui a été signé, je le souligne, a été signé entre le gouvernement et Mittal. C'était aussi une des garanties, parce que vous savez, bien souvent, Mittal il signe des accords avec les partenaires sociaux qu'il ne respecte pas.
Non. Mais revenons à Alstom un tout petit peu. Cette idée un peu répandue là que Siemens, la solution Siemens, ça serait au moins l'Europe mise en avant, ça serait au moins un groupe. Vous en pensez quoi? Vous pensez que ça existe, cette idée d'un grand groupe de l'énergie européen, ou bien c'est juste des mots?
Non, l'idée, là actuellement... je ne connais pas bien le dossier dans le détail, évidemment, mais vu ce que j'ai lu et vu ce que les aspirations de Siemens, la vision qu'a Siemens sur Alstom, pour l'instant, ça ne reste que des mots, puisque Siemens n'est pas intéressé par la totalité d'Alstom, c'est uniquement une partie. Et c'est ça qui me fait peur. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que là, justement, l'Europe joue son rôle, pas évidemment pour dicter la conduite de l'un ou de l'autre, mais essayer de poser la vraie question de quelle politique énergétique, quelle politique de transport, et comment on peut mettre un contexte pour faire en sorte que cette filière s'organise au niveau européen et qu'on fasse effectivement, je l'ai lu dans la presse et je partage assez l'idée, les Airbus de demain. Oui, pourquoi pas.
Est-ce qu'il y a un parallèle entre Alstom et Arcelor, une histoire donc d'ArcelorMittal que vous avez bien connue. Est-ce qu'il y a un parallèle sur un destin du déclin de l'industrie française?
Écoutez, je suis pas sûr que les deux sujets, on puisse les mettre sur le même plan d'égalité. Je pense que, et encore une fois, je suis pas un spécialiste de la société Alstom, mais je pense que le problème de la direction d'Alstom, c'est que elle a peut-être pas anticipé et elle n'a pas fait peut-être les bons choix stratégiques au bon moment. Mittal, lui, il a une vraie stratégie. Il a une vraie vision. Alors, elle est ce qu'elle est, on la partage, on la partage pas. Et d'ailleurs, il a été très visionnaire. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il a gagné l'OPA face à M. Guidolé, parce que ça a été le premier ou un des premiers à comprendre l'importance et l'intérêt de maîtriser l'approvisionnement en matières premières. Donc, il a beaucoup investi dans les mines. Alors après, maintenant, il a une stratégie, évidemment, financière. C'est pour ça qu'il ferme les sites continentaux, etc. Mais ce sont... D'un côté, à mon avis, un manque d'anticipation et des mauvais choix stratégiques. De l'autre côté, l'autre, il a un choix stratégique, c'est voilà, la financiarisation du groupe.
Est-ce que dans l'affaire Alstom, il n'y a pas eu un manque d'anticipation aussi de la part de l'État?
Oui, mais oui, certainement. Mais encore une fois, il faut qu'on vive avec nos contradictions les uns les autres. Lorsque l'État essaye de jouer son rôle en disant l'État n'a pas à se mêler des entreprises privées, et puis en même temps, on lui reproche qu'il n'a pas anticipé. Mais par contre, là, je pense que le patron d'Alstom doit aussi lui-même s'interroger sur sa propre responsabilité, hein, parce que c'est trop facile de se tromper dans les choix stratégiques. Et j'imagine, peut-être, je sais pas quel va être le sort d'Alstom, j'ose espérer qu'il va pas partir avec un parachute doré, quoi, hein, parce que là, ça serait la cerise sous le gâteau, quoi.
Vous, en tant qu'ancien syndicaliste, vous seriez favorable à ce que, sur les grands sujets, les grands choix stratégiques des grandes entreprises françaises privées, les syndicalistes, les syndicats et leurs mots à dire.
Bien sûr. Alors, merci de me poser cette question.
Oui, j'ai bien entendu en la posant, beaucoup. Vous allez dire bien sûr. Mais comment?
Mais
parce que c'est absolument irréaliste.
Mais
en
parce
fait.
Que. Non, mais attendez. C'est en plus une des idées fortes que je défends dans cette campagne européenne. Aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est qu'effectivement, les partenaires sociaux n'ont pas voix au chapitre ou alors à la marge. Et moi, ce que j'ai envie. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, j'ai déjà discuté avec des eurodéputés en place, des anciens syndicalistes, que ce soit des Tchèques, que ce soit des Espagnols ou autres. On a vraiment envie, entre guillemets, d'institutionnaliser au niveau européen le rôle des partenaires sociaux. Regardez ce que font les Suédois. Les eurodéputés suédois ne prennent jamais une décision, quelle qu'elle soit, sans qu'au préalable, ils aient eu une position commune avec les organisations syndicales. Et ça marche. Regardez l'exemple allemand.
Vous voulez dire que, Edouard Martin, que la méthode Hollande actuellement sur le dialogue social, elle ne correspond pas à ce que vous décrivez ?
Il y a du mieux, mais ça ne va pas suffisamment loin.
Il n'est pas assez social-démocrate à vos yeux ?
Mais je suis pas social-démocrate, moi, donc peut-être pas assez socialiste, j'en sais rien, mais pas assez. Moi, je ne suis pas social-démocrate. Mais regardez la méthode allemande, la co-gestion. Aujourd'hui, la force de l'Allemagne, entre autres, pas seulement celle-ci, c'est justement cette capacité à avoir du dialogue social permanent et la négociation perpétuelle. Et le rôle des partenaires sociaux, des organisations syndicales dans les conseils de surveillance est prépondérant. Voilà un peu l'idée. Ça démontre tout simplement que le dialogue social et la négociation sont créateurs de richesses.
Alors, Edouard Martin, je reviens sur cette affaire Alstom et le gouvernement qui a un peu quand même le sentiment de s'être fait berner par le PDG d'Alstom, Patrick Cron. Écoutez la colère d'Arnaud Montebourg cet après-midi à l'Assemblée nationale.
Depuis le mois de février, j'interroge Monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et Monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ?
Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie et du redressement industriel, cet après-midi devant les députés. Ce qu'il dit au fond, c'est que François Hollande a beau avoir choyé les patrons depuis son élection. Hein, moi, par exemple, Patrick Cron, il est pratiquement de tous les voyages à l'étranger de François Hollande. Il voyage dans son avion pour décrocher des contrats à l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de naïveté de la part de François Hollande ?
Je ne sais pas si...
Est-ce qu'on peut faire confiance à un patron ?
Non, mais je ne sais pas si c'est la naïveté de François Hollande ou si c'est le cynisme de ce genre de patron qu'il faut souligner. Vous voyez, c'est le côté détestable, surtout dans l'ambiance actuelle. Je mets ça en parallèle avec l'attitude de Monsieur Gattaz, où nous sommes dans un marasme économique dans lequel les entreprises, là, les grandes entreprises, ne sont pas sans responsabilité.
Pierre Gattaz, hein, le patron des patrons.
Oui, et ce sont des gens qui se permettent, avec tout le cynisme qu'on leur connaît, venir nous donner des leçons. D'abord, quand ça les arrange, c'est l'État n'a pas à se mêler, mais quand ça les arrange, l'État n'a qu'à me faire des cadeaux. Et ça, c'est le côté détestable. Alors effectivement, je ne sais pas si c'est la naïveté, mais je pense qu'à un moment donné, le politique doit reprendre le dessus sur ce genre d'attitude. C'est pas au patronat et ni au PDG d'Alstom ni à monsieur Gattaz de faire la politique en France. Ce sont aux élus, c'est eux qui sont légitimes pour faire cette politique là.
Il en a trop fait pour les patrons, François Hollande, depuis son
élection. En tout cas, c'est le sentiment qui est perçu. Aujourd'hui, le pacte de responsabilité, effectivement, moi, je suis prêt à comprendre. Je viens du monde de l'entreprise. Je sais ce que c'est de perdre la compétitivité. Je sais qu'il faut aussi entendre ce discours-là. Mais c'est 30 milliards d'aides aux entreprises. Et c'est quoi la contrepartie pour les salariés ? C'est Gattaz qui vient nous dire il faut accepter de travailler en tout le SMIC. Alors, j'ai envie de dire à monsieur Gattaz, chiche, monsieur Gattaz, à combien vous le mettez, vous, votre SMIC à vous ? 600 euros ?
Vous seriez député, monsieur Martin, vous ne voteriez pas là maintenant, tout de suite.
Je ne sais pas quelles ont été les dernières modifications. J'étais toute la journée à droite à gauche. Mais
ça dépend de ça, votre vote, des dernières modifications, là, des quelques heures.
Non, mais est-ce que le message a été entendu ? Est-ce que les petites retraites, est-ce que les petites gens, les minima sociaux, etc., être revalorisés ou pas, je ne sais pas. Mais ceci étant dit, moi, j'aurais voté le pacte si, en même temps, vous savez, pour relancer la croissance et l'économie, il faut effectivement aider la politique de l'offre, mais il faut aussi aider la politique de la demande. Donc, il aurait fallu aussi donner un coup de pouce à ceux qui créent des emplois. Il n'y a pas que les entreprises. Ceux qui créent les emplois, ce sont les consommateurs que nous sommes.
En un mot, Edouard Martin, la politique économique du gouvernement, selon vous, elle est déséquilibrée, c'est ça ?
Oui, aujourd'hui, oui. Il aurait fallu, évidemment, donner... vous savez, on a vu l'effet que ça a donné, la politique de l'austérité en Espagne. Regardez, c'est quoi le résultat de l'Espagne ? Il n'y a jamais autant de chômage qu'actuellement. Et pourtant, on a taillé sur tous les minima sociaux là-bas. On a y compris baissé les salaires.
Merci Edouard Martin, on arrive à la fin de la première partie de Mardi Politique, mais on se retrouve juste après les informations, à tout de suite.